France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit une artiste qui vient de vivre un moment charnière, une de ces soirées qui peut faire basculer une trajectoire, confirmer une intuition ou ouvrir un tout autre chapitre. Théodora vient de remporter 4 victoires de la musique, 4 albums de l'année, révélation féminine, révélation scène et création audiovisuelle. Mais finalement, quand on regarde l'année 2025 de Théodora, les trophées paraissent presque secondaires. Avant ça, il y a eu à la fois l'éclosion, la confirmation et même l'omniprésence d'une artiste radicale, hybride, audacieuse, à l'image de ce à quoi ressemble la pop aujourd'hui, à l'ère des Bad Bunny et des Rosalia. Théodora est on ne peut plus dans son temps. En quelques années, elle est passée de l'underground au mainstream sans jamais lisser son propos ni son esthétique. C'est donc un honneur et une chance de pouvoir la recevoir aujourd'hui et revenir avec elle sur sa jeune mais déjà renversante carrière. La Boss Lady est avec nous, à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Théodora ! Méga BBL de Théodora !
Théodora.
Et Théodora est le réalisateur Meshor Leroux.
Merci beaucoup. C'est moi, Boss Lady, en fait.
Non, on vient d'écouter un extrait des dernières victoires de la musique. Comment ça va, Théodora ?
Un peu fatiguée, mais ça va super. Et toi ?
Pourquoi t'es fatiguée ? T'as trop fait la fête ?
Je pense qu'il y a une part de fête et une part de un petit peu de relâchement maintenant que c'est passé. Ouais. Tu sens la fatigue passer une fois que c'est passé. Tu te dis, ah ouais, là je suis un peu fatiguée. Je vais enchaîner.
Justement, parce que donc là, il y a eu on peut parler de triomphe. T'as gagné 4 victoires de la musique sur 5 nominations. On a le sentiment, en tout cas, que c'était important pour toi. Même, t'en parlais un peu avant. Quand on t'a vu pendant la cérémonie, t'étais contente. Alors, évidemment, les gens qui gagnent sont contents. Mais j'ai le sentiment que ça voulait vraiment dire quelque chose pour toi. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir gagné comme ça vendredi ?
Je pense que déjà vendredi, avant même de gagner, j'étais super contente.
Juste d'être là déjà ?
Ouais, j'étais grave contente parce que finalement, j'étais avec mon équipe. On était pas mal nominés. Je pense que en faisant la musique que je faisais, surtout quand j'ai fait Méga BBL, j'attendais pas de recevoir une certaine légitimité ou je m'attendais pas à grand chose. Et je pense que je m'attendais encore moins à ce que le projet soit compris par d'autres publics qui soient forcément consommateurs des musicalités que je défends dans ce projet-là. Donc le fait d'être là et d'être nominée dans autant de catégories, ça m'a rendue heureuse parce que je pense que ça m'a rendue un peu heureuse dans le sens où j'ai senti un avancement. On en parlait d'ailleurs au micro de France Inter avec DC's, juste après, le fait que Musique du Monde, album Musique du Monde, ça a été supprimé, c'est un avancement. Ouais. Je pense que le fait que Méga BBL ait été nommé et puis qu'il ait pu gagner, c'est aussi un avancement. Et je pense que c'est ça qui me rendait heureuse, en dehors du fait d'être là et de gagner. C'était de me dire que, en vrai, ça avance. Ouais. Et que je trouve ça beau, en vrai, que ça avance.
Ça avance. Tu dis quelque chose à l'instant. Tu dis que toi, quand tu fais ta musique, tu ne pensais pas forcément que ça allait rencontrer ce succès-là, ce couronnement-là, si je puis dire. Et je te dis la vérité, moi qui t'écoute depuis quelques temps, je pensais pas non plus. Non pas que je doutais en la qualité de la musique, c'est pas ça. Hein. C'est que je pensais pas que cette musique-là, que je vois comme une musique radicale en fait, comme je le disais dans l'introduction avant que tu arrives, sans compromis, je pensais pas que ça pouvait fédérer autant de personnes. Et en 2025, ça l'a fait, avec BBL et ensuite avec Méga BBL. Ça, est-ce que t'as vraiment été surprise par ça ? Parce que moi, en tant qu'auditeur, j'étais agréablement surpris, mais j'ai été surpris. Je pensais pas que tous ces morceaux-là, même qu'on connaisse sous Biel, ton premier tube, je pensais pas que ça pouvait devenir ce type de tube.
Moi, j'ai été tout le temps surprise, en vérité. Parce que je pense que même... moi, je suis un peu du parti pris du... le single zéro que tu sors, ça doit pas être le meilleur, la plus grosse bastos. Tu sors pas ton tube avant, quoi.
Okay.
Et au final, moi, j'ai un peu le sentiment d'avoir senti mon tube avant. Même si du plus loin que je me souvienne, et je pense qu'on pourrait demander à tout le monde, moi j'ai toujours dit que pour moi le hit de ce projet c'était Fashion Designer. Donc finalement, bon.
Et c'est un peu ce qui est devenu.
Ouais, exactement, ouais. C'est pour ça que je me dis, j'ai pas eu très tort. Mais non, je m'attendais pas à ça. J'ai été très surprise. Et je pense que j'ai été surprise parce que je ne pensais pas pouvoir parler à autant de personnes différentes. Même ça me surprend toujours autant. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais je me vois trop en toi. » Et tu vois, je les regarde, je regarde leur centre d'intérêt. Je me dis « Mais j'arrive pas à comprendre ce qu'on a en commun. Ouais. » Parce que moi, je me vois pas en toi. Et en fait, après, je pense que le fait d'avoir laissé le temps passer, Mika Bibil est là un certain temps maintenant, ça a fait que j'ai eu le temps de me rendre compte aussi que finalement, je porte un bagage... culturel tellement éclectique aussi. Ouais. J'ai vécu à la campagne, j'ai vécu en banlieue, j'ai vécu dans tellement d'endroits que peut-être que moi je m'en rends pas compte, mais que eux les gens l'entendent dans ma musique et qu'ils arrivent à discerner ces petits points et à s'y accrocher, et c'est tant mieux parce que moi je ne rêvais que de ça, de parler à tout le monde. J'ai le sentiment que je fais une musique qui défend des choses, et je fais une musique qui vient de certains endroits, mais que parallèlement, moi j'ai vraiment envie de parler à tout le monde. C'est même pour ça que la première tournée, on allait se bousiller, moi je suis passée par les plus grosses campagnes. Même je me rappelle, il y avait des débats sur Twitter, mais ah, c'est ça le public de Théodora. Et j'étais en mode, mais moi je passe partout. Ouais. Après, moi aussi, les gens ils sont prêts à aimer ma musique, à m'aimer et à aimer tout le bagage de ma musique, c'est-à-dire aussi. D'où elle vient, qui l'a fait, qui l'a créé. Je ne suis qu'une porteuse finalement d'un message que je n'ai pas créé. Si les gens ils sont prêts à entendre ça et à l'accepter, moi, écoutez-moi, venez me voir en concert, on va prendre des photos, on va rigoler. Et moi, je pense que c'était vraiment ça que j'avais en tête quand j'ai vu ce que je pouvais représenter. Ouais. Mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas.
Est-ce que, mine de rien, que tu t'y attendais ou pas, est-ce que toi, tu voulais plus jeune, même quand tu commences à faire de la musique, être une pop star? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le cas. Même si ta musique ne correspond pas forcément au canon de la pop, tel qu'on peut l'imaginer de manière un peu bête et méchante, mais en fait, aujourd'hui, c'est le cas au moment où on se parle. Est-ce que tu avais cette envie-là? Des fois, il y a des gens qui disent « Non, moi, je veux être une artiste underground, alternative, etc. » Et moi, j'ai l'impression que toi, tu es un peu les deux, en fait, justement. Que tu arrives avec une proposition au départ qu'on pourrait qualifier un peu rapidement d'alternative, parce que tu mélanges plein de choses, justement, ce que tu viens de dire. Et je pense que souvent, il y a un terme qu'on emploie beaucoup quand on parle de toi, c'est hybridation, tu sais, parce qu'il y a plein de choses. Mais en même temps, il y a aussi ce rayonnement pop. Donc, est-ce que toi, tu rêvais de ça?
Alors, je pense que quand j'étais petite, j'étais d'une autre école. Ce qui fait que je pense que j'ai rêvé d'être une pop star à un moment donné dans ma vie. Quand j'ai connu la musique, parce que moi, j'ai connu la musique avec Rihanna. Et donc, quand elle arrive avec Umbrella, je la trouve très, très brandée pop star de fou. Ouais. Et ensuite, je pense que comme j'ai plus écouté de rap, j'étais plus dans une DA, ah, moi je vais être une trap star ou à la limite une rock star. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc plus. Je n'ai pas envie de faire de compromis quand il s'agit des trap stars ou vraiment des rock stars, parce que je pense que c'est une musique qui est née dans une certaine rébellion. Et ça fait partie de son essence. Et quand bien même parfois les porteurs ne portent plus de messages de rébellion, eux-mêmes, ils portent la rébellion sur eux-mêmes, ils sont sans compromis. Et je pense que c'est plus ce que j'imaginais en étant plus jeune. Et je pense qu'ensuite, en grandissant, il y a ce truc de... je ne me suis plus posé de questions.
Ouais, tu ne te poses pas de questions.
Et je pense que c'est pour ça que c'est un peu un mélange de tout. C'est parce que j'ai grandi. Et en vrai, je suis une merde, je n'arrivais pas à me poser de questions. Donc je faisais un peu comme je me sentais.
Mais est-ce que aussi maintenant tu digères tout tes... Même si tu es encore jeune en fait, et que tu peux... Évidemment, on ne sait pas à quoi ressemblera ta musique dans 5-6 ans, mais est-ce que tu n'es pas aussi à un moment où justement tu digères toutes ces influences-là, aussi bien du côté pop que de la musique peut-être que tes parents mettaient à la maison, que le rap? J'ai le sentiment que là, au moment, tu es à ce moment-là de ta carrière où tu arrives à mélanger tout ça.
Je trouve que c'est vrai, mais je trouve que c'est d'autant plus vrai avec... avec la suite, parce que je pense qu'il y a un truc de conscientisation aussi, de se rendre compte de, ok, moi j'écoute ça, et en fait, j'ai eu par exemple un truc un peu fou, c'est que je trouve que j'ai beaucoup de mal à faire la musique que j'écoute. Genre, je fais des sons que j'écoute, mais je fais pas la musique que j'écoute le plus. Et c'est un truc qui me fascine beaucoup, parce que même je me dis, je peux pas beaucoup parler de pop. Et je me suis rendu compte récemment, parce que j'adore regarder des concerts, Et j'adore regarder les concerts de Madonna, du coup. Et je me dis, mais en vrai, j'adore regarder les concerts, mais j'ai écouté combien de projets de Madonna, en vrai.
Ouais, ouais. C'est pas une artiste que t'as poncé, mais t'aimes bien ce qu'elle incarne. Ouais.
Exactement. Okay. Et je pense que je suis dans une étape de ma vie où, plus que même digérer, je suis en train de conscientiser. Non pas pour digérer, mais pour continuer à ouvrir mes portes. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore découvertes et que je dois découvrir. Parce que ça a un intérêt pour ma musique, pour ma personne. Et je pense que je suis très jeune en vrai. Mmh. Et que ce qui est bien quand t'es très jeune, c'est qu'il y a trop de choses que t'as pas découvertes encore. Et je pense que ça va vraiment venir consolider ma musique. Et je pense aussi qu'il y a ce petit truc de confiance en soi. Je pense que le fait d'avoir confiance en soi et en sa musique, ça m'a quand même, en l'occurrence pour moi, ça m'a donné cette possibilité de mieux mélanger mes musiques. Parce que j'avais confiance en comment j'allais le mélanger, j'avais confiance en « non, c'est pas bizarre de chanter sur cette prod, non, c'est pas bizarre d'avoir un flow plus rappé sur cette prod, et c'est ok ». Par exemple, un truc qui est un peu fascinant, mais moi j'ai eu... J'adorais la version Frikiti de Mon Bébé. Et c'est un morceau que j'ai eu plus de mal à sortir. Parce que je me suis dit, ah ouais, mais le deuxième couplet, il est pas chanté. Les gens, ils vont encore me casser la tête. Ouais, mais t'es rappeuse ou t'es chanteuse. Ouais. Et en fait, parfois, les gens, ils me cassent la tête. Genre, il y a des questions, elles sont pas dans ma tête, je fais juste de la musique. Et je me rends compte qu'après, pour sortir les morceaux, pour faire la musique, je suis jamais influencée. Mais pour sortir les morceaux, parfois, je suis, ça me rend plus dur, par exemple. Je trouve que je suis beaucoup plus dur avec les morceaux où je chante pas.
Okay.
Et je trouve ça bien dommage. Bon.
Vu que tu parles de la suite, tu as sorti un morceau vendredi qui s'appelle Des Mythos. Je propose qu'on l'écoute. Peut-être que c'est une indication, c'est tout nouveau morceau, sur ce que tu vas faire par la suite. On écoute ça et puis on en parle juste après Théodora, Des Mythos.
M'appelle Natalia, il me dit je t'aime, il me parle de familia, il me dit de la marijuana, si tu veux du stress avec lui, viens voir où il y en a, mais on m'appelle Madame Caillou, cœur rebelle et sans cahier, ça compte pas belle mais sans cahier, je l'ai que c'est déjà sans carrière, ce type non bah ouais c'est carré, comme maman. Moi je
intérêt d'aller se faire foutre.
On vient donc d'écouter le tout dernier morceau de Théodora qui s'appelle Des Mythos.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et je tiens surtout à remercier aussi tous les projets qui sont passés avant moi, qui ont permis à mon projet d'être mieux compris, les Aya Nakamura, les Tiakola. Si aujourd'hui, moi, mon projet avec des sonorités afro-caribéennes, il a pu être compris, c'est parce que ces gens-là, ils sont passés avant moi. Donc, je les remercie et... C'est moi, Boss Lady, en fait.
C'est toi, Boss Lady, en fait. Ça, c'est un extrait de ton discours, Vendredi aux Victoires. Et tu as cité deux personnes, notamment donc, Aya Nakamura et Tiakola, même si j'imagine que... je ne sais pas dans quelle mesure le discours était préparé, dans quelle mesure c'était spontané, dans quelle mesure tu aurais peut-être pu même dire d'autres noms, mais en tout cas c'est des noms importants que tu as cités. Est-ce que tu as l'impression que ces gens-là, comme d'autres hein, peut-être, ils ont aussi pavé le chemin pour Théodora, pour la Boss Lady aujourd'hui, pour que tu puisses toi aujourd'hui être aussi, que ta musique elle soit peut-être plus acceptée plus facilement que ça l'aurait été il y a peut-être quelques années?
Alors déjà ouais, j'ai pas préparé mon discours, sinon je pense j'aurais cité plus de noms, mais en fait le problème c'est ça, les trucs avec le discours, c'est que pendant que tu le fais, j'ai trop du mal à chaque fois que je commence à réfléchir. Et en plus, après, ma voix devient toute aiguë, etc. Avec l'euphorie. Mais ouais, je pense que moi, mon projet... comme je l'ai dit, hein, je pense que s'il a pu, en vrai, être bien compris, c'est parce qu'il y a des gens avant moi qui ont vraiment pavé le chemin, qui ont eu des hits en France, qui ont fait danser tout le monde, en vrai. Ce qui fait qu'ensuite, moi, en arrivant... je dis pas que j'étais le profil le plus simple à accueillir, mais je pense que je suis beaucoup plus comprise ensuite. Et je pense que tous les gens qui ont inséré petit à petit les musiques afro-caribéennes, parce que ça s'est pas fait tout de suite avec un gros bouillon ou avec un gros zoom, des choses comme ça, je pense que tous ces gens-là, ils ont vraiment participé au fait que ça se démocratise dans les oreilles de l'auditeur. Je pense qu'aussi, il y a un truc un peu important, finalement, qu'on n'a pas assez en France, c'est la notion d'héritage. Je pense que c'est cool de ne pas perdre l'héritage,
de citer les gens.
De citer les gens, ça fait pas toi un petit peu, en vrai.
Ouais.
C'est pas parce que tu cites les gens qui t'ont pavé le chemin, tu deviens un petit peu d'un seul coup, tu vois. Je pense que c'est juste important, pour même pour les auditeurs, pour qu'ils aient en tête, en vrai. C'est important qu'on sache d'où les musiques viennent, qui ont été les premiers à les démocratiser. Enfin, je pense qu'il ne faut pas oublier l'histoire de la musique non plus. Et que, du coup, ça me tenait à cœur pour une fois que j'avais le micro et que je pouvais parler un peu à tout le monde, à des publics peut-être qui me voyaient moins, à des publics qui ont l'occasion d'entendre nos musiques, mais moins de nous voir. Je pense que c'était important pour moi à ce moment-là de rappeler que, ouais, en vrai, il y a eu des gens avant moi qui ont pavé le chemin et que parfois ces gens-là, ils n'ont pas gagné. En fait, parfois ces gens-là, eux, ils n'ont pas été compris parce que finalement le chemin n'était pas assez pavé pour eux. Donc, eux, le fait qu'ils ne soient pas compris, ça a permis qu'ensuite nous on arrive et qu'on soit plus compris. Et le chemin, il n'est pas fini d'être pavé.
Tu as cité entre autres Tiakola, mais tu sais, Tiakola, comme toi, parfois il y a toujours des débats sur. Est-ce que c'est du rap? Est-ce que c'est pas du rap? Et en même temps, moi, quand on me dit que Théodora, c'est pas une rappeuse, c'est pareil pour Tiakola, je suis pas d'accord parce qu'il y a des morceaux où tu rappes, puis il y a des morceaux où tu rappes pas, mais en fait, comme plein d'artistes, tu vois, je veux dire, c'est un débat, par exemple, qu'il n'y a pas forcément avec Hamza, qui est vu comme un rappeur, alors qu'il n'y a pas de morceaux où il chante, et c'est le cas, je dis Hamza, comme je pourrais dire Luigi, comme. Enfin, il y a plein avec qui tu as collaboré, il y a plein de gens comme ça. Je sais pas, toi, moi, je pense que tu ne mets pas d'étiquette et que tu te poses peut-être de moins en moins ces questions, mais comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que pour moi, Théodora, c'est une rappeuse, entre autres choses.
Moi, je pense que... j'essaie toujours de me mettre à la temporalité de l'auditeur. Et si je me mets à la temporalité d'auditeur, pour moi, je pense que je suis une chanteuse qui rappe.
Ok. que tu vois ça comme ça, toi. Okay.
Je pense que je vois ça comme ça parce que il y a des morceaux trop chantés. Et je pense que récemment j'avais un débat avec un artiste qui m'a dit que parce qu'on était d'accord tous les deux sur la question rap chanté.
Okay.
Et il m'a dit ouais pour moi c'est rappé quand il n'y a pas de notes dans la top line. Genre même s'il y a des variations, il n'y a pas de notes. Et je l'admets. Et de ce fait, il y a des couplets comme Frikiti où je vais rapper. Il y a des morceaux comme Asokuna Mabile où les couplets vont être plus rappés. Mais globalement, je pense que j'ai beaucoup de morceaux chantés aussi à côté. Je pense que ça dépend vraiment des projets. Et que dans mon esprit, je me dis que c'est voué à balancer de l'un à l'autre tout au long de ma carrière. Et je pense, là, comme je suis en train de faire de la musique et d'être dans la continuité de la nouvelle ère de Bass Lady Miss Kitoko, je me dis, je le sens en tout cas, que je suis dans une valse permanente.
Ouais.
Entre un peu les deux, et finalement, c'est ce que j'ai écouté toute ma vie. Donc ça fait sens.
On est avec Théodora jusque 23h. Théodora, aux Flammes, tu avais fait un discours. Tu avais fait une intervention qui m'avait marqué, je pense, beaucoup de gens. Tu pensais, je parlais des petites filles.
Noir un peu bizarre.
Noir un peu bizarre, exactement. Et quel type d'adolescente t'étais, toi? T'étais comment? Est-ce que c'est comme ça que tu te définirais aujourd'hui avec le recul, comme une petite fille noire un peu bizarre? C'est comme ça que tu te voyais
non.
à l'époque?
Non. Maintenant que j'ai grandi, je pense que je me définirais comme une petite fille noire un peu perdue.
Ok.
Parce que je suis passée par beaucoup d'endroits en vrai, et ça a ses avantages de déménager et ça a ses inconvénients. Et je pense que ça fait quand même que t'es vite perdu dans ton identité. Je suis arrivée en France, j'avais... Et parfois, parce que j'en parlais avec mon père il n'y a pas longtemps, et je lui disais, parfois j'oublie que je suis arrivée en France.
Oui.
Je suis arrivée en France...
T'es pas...
Non, je ne suis pas née ici, j'arrivais à 6 ans et demi, je ne parlais pas bien français, je parlais grec. Après, j'ai appris à parler français, mais je ne parlais plus grec. Et j'ai l'impression que j'étais... Une fille qui valsait tout le temps entre différentes identités. Parce que, en vrai, quand t'es aussi jeune, ton identité, elle s'ancre quand même dans un cadre spatio-temporel. Mmh. Et que moi, ce cadre, il était en changement permanent. Donc, je pense que j'étais une jeune fille un peu perdue. Surtout qu'il y a des moments, je suis arrivée à des endroits où j'étais vraiment la sonore. En mode...
T'as connu ça?
Ah ouais, vraiment, Marlie Gaumont de fou et tout, seule famille noire, etc. Et parfois, ça a été une super expérience, en réalité. Et parfois, ça a été
violent.
Super dur. En vrai, parfois, ouais. Ça a été très violent. Parce que je pense aussi, il y a une violence quand t'es jeune, c'est la violence de pas comprendre. Parfois, tu comprends pas pourquoi les gens t'aiment pas, tu comprends pas pourquoi on te dit ça. Ouais, mais lui, il a dit que je pue, alors que je peux pas. Pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Il y a beaucoup de gens, en plus, ils disent que je pue. Avant, on ne disait jamais ça. Maintenant, on me dit ça depuis que je suis arrivée ici et tout. Je suis dans une ville et tout. Je suis la seule noire, etc. Et je pense que cette violence-là a fait que j'étais une jeune fille un peu bizarre de ce fait-là, mais parce que j'étais un peu perdue. Donc, j'avais plein d'identités sur moi. J'aimais plein de choses différentes. Et c'était un peu dur à contenir. Mais je pense que j'étais aussi une petite fille très curieuse. J'ai cherché à découvrir plein de trucs. J'adorais Internet. Parce que je trouvais que c'était un peu un monde ouvert et je trouvais qu'il y avait cette notion. En fait, sur Internet, il y a un truc que je pense que j'ai toujours aimé, c'est ce côté où ton identité, elle ne s'ancre plus dans un cadre spatio-temporel. En fait, ouais. Tu peux être qui tu veux pour le meilleur et être qui tu veux pour le pire et être la plus horrible personne anonyme sur Internet, c'est vrai. Mais tu peux aussi être juste qui tu veux et tomber sur une niche qui te comprend super bien.
J'ai posé une question que j'avais déjà posée à Vald. Tu préfères la vraie vie ou Internet? Tu vois, c'est pas si facile que ça.
À une époque, je t'aurais dit Internet, c'est sûr. Ouais. Maintenant, je pense que je te dirais la vraie vie parce que au moins, dans la vraie vie, j'arrive à voir dans tes yeux si tu mens vraiment, ouais. s'il y a de l'intérêt dans ta personne. Si, et puis peut-être que la vraie vie, ça fait quand même que t'as plus de... Maintenant, en tant que personnalité, j'ai plus de vie privée dans ma vie réelle que sur Internet. Donc, je pense que, plus vraie vie. Hein.
Ok. Alors, sur le Haut Victoire, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a gagné une victoire, c'est Diffiz, avec qui vous avez fait un morceau, Mélodrama, qu'on va écouter. Mais avant qu'on l'écoute, c'est aussi... Alors, tu sais, quand quand il y a un changement aussi de statut, ça a été le cas pour toi cette année, tu commences à aussi être de plus en plus appelé. J'imagine que, ça, que tu dois aussi parfois refuser des choses, des collaborations. Et tu en as accepté quelques-unes cette année. Et je pense notamment à celle-ci avec Dissus, qui est un des plus gros tubes de l'année. Est-ce que tu as été surprise? Est-ce que quand tu vas en studio, parce que d'ailleurs Dissus sur Inter, dans l'émission Tapage de Camille Diao, disait que tu es venu au studio et que en fait, ce que tu fais sur morceau, tu l'as fait en fait presque en improvisation. Tu l'as fait de manière très facile. Lui, qui est quelqu'un qui, je crois, qui se pose beaucoup de questions. Toi, que t'es allé vraiment avec ton bagage et que ça a été fait en une demi-heure, en gros, je crois qu'il racontait ça. Est-ce que toi, quand tu fais cette collaboration-là, tu peux te douter qu'il va se passer ce qui s'est passé sur Mélodrama?
Alors, j'aimais beaucoup le morceau. J'aimais aussi beaucoup le fait que Dissus il m'ait invité sur de la pop, parce que c'était un moment où tous les morceaux pop que j'avais, personne ne voulait les appeler pop. On voulait toujours les mettre dans une autre case. Et moi, j'étais mais ok, je peux comprendre que je ne sois pas une pop star parce que je fais plein d'autres trucs et je pense que je fais moins de la pop, mais je suis quand même de la pop. Donc j'étais très contente. Quand j'arrive au studio, c'est vrai que je travaille très vite ce jour-là. C'est pas toujours le cas.
Okay.
Honnêtement, c'est pas toujours le cas. Parfois c'est le cas, parfois pas. Mais je m'en fous en vrai. Tant que j'ai fait un bon morceau, s'il a pris 3 mois ou s'il a pris 30 minutes, j'ai fait un bon morceau. Je pense que le fait qu'il m'a invité sur ce morceau-là en précis, sachant que moi j'adore être triste. Genre je suis quelqu'un de très nostalgique en général, ce qui fait que j'ai le sentiment d'être plus inspirée dans la tristesse que dans d'autres choses peut-être. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pu écrire aussi vite. Je pense aussi que la thématique, elle me parlait à ce moment-là. Je pense que j'étais aussi dans une phase un peu boostée. Là, j'avais fait méga BBL, les gens ils étaient un peu en train de me saucer. Et moi, de base, j'avais pas trop confiance non plus. Ça veut dire que j'avais confiance en ma musique et tout, je savais que c'était bien, mais j'ai jamais été une fille remplie d'excès de confiance. Ce qui fait que ce moment-là, il m'a vraiment boosté dans ma vie, même dans ma musique. Et du coup, ça a été plus simple en vrai. Ça veut dire que j'étais plus confiante derrière le micro. Ouais. Et puis, la session, elle était très chill. Dissus, vraiment, il a. En tout cas, de mon point de vue, je l'ai senti comme ça, comme si ça lui tenait vraiment à cœur que la session elle soit chill. Parce que par exemple, même un truc bête, que les gens vous trouvez peut-être bête, mais c'est qu'il n'y a pas de cover, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de. Parce qu'en vérité, j'étais pas préparée.
Ouais.
Et j'étais pas préparée.
C'était vraiment quelque chose d'instinctif qui s'est passé.
Et tout le monde me disait, mais non, mais t'es belle et tout, viens, on prend des photos et tout. Mais d'ici, j'étais en mode, ah ouais, non, mais en vrai, si t'es pas préparée. On n'apprend pas.
On
n'apprend pas parce que moi je connais le jeu d'internet, parce que moi je connais ça, moi je connais ci. Et en vrai que je m'en fous. Et je pense que c'est quand même marqueur d'un truc très sincère. Et moi je l'ai senti en tout cas comme quelque chose de très sincère et comme vraiment une volonté d'être dans la bienveillance, d'être vraiment dans le truc chaleureux et de l'accueil. Et je pense que c'est tous ces petits détails qui ont permis au morceau de.
Ouais.
D'être ce qu'il est aujourd'hui en vérité.
Et qui est, je crois, potentiellement en train de dépasser, de battre des records du nombre de semaines numéro 1. Bon, on s'écoute ça en tout cas. Dissus et notre invité Théodora pour le morceau Mélodrama.
Encore toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mini mélodrame. Ça fait si mal, alors que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un con dans ce mini mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on s'accompagne.
Page pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime, un homme pas deux.
ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation.
C'était donc Mélodrama présent sur l'album de This Is, on s'en rappellera pas.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
On est avec Théodora. Théodora, est-ce que tu connais, j'espère bien prononcer son nom, la chanteuse Gillian Hills?
Alors ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûre.
Alors en 1962, elle a sorti ce morceau.
Zoubizoubizou, oui c'est pour ça. Okay. J'avais pas envie de faire la meuf qui connaît pour rien.
Moi j'avoue que je connais parce que j'ai travaillé avant. Hein. J'avais pas son nom, mais ce morceau est connu. Notamment une scène mythique de la série Mad Men où on entend ce morceau. Et en 2025, Théodora et Jules ont fait ce morceau. C'était une référence à ce morceau. Parce que ça, c'est une collaboration aussi. Moi, quand j'ai vu la tracklisting de Mega BBL, je vois Juliette Armani, je vois Luigi, je vois Jules, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Mais j'étais aussi excité de quel morceau vous alliez faire avec Jules. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un morceau qui est pile poil entre vos deux univers. Et souvent, les gens qui collaborent avec Jules, c'est dur parce qu'il a un univers tellement marqué. Souvent, ça va dans l'univers de Jules et ça marche parce que c'est Jules. Là, c'est pas le cas. Vous êtes, je trouve, presque à mi-chemin ou presque. Enfin, tu vois, il y a vraiment une forme d'alchimie qui s'est mise en place. Comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y avait une ref à ce morceau de Gillian Harris, du coup?
Alors déjà, je pense qu'il y avait une ref un peu. Il y a un truc, moi, avec les gros tubes de ma vie, c'est qu'ils restent tout le temps ancrés dans ma vie. Et parfois, quand je suis un peu heureuse, un peu contente, je vais commencer à chanter bisous, bisous, bisous. Et c'est vraiment un truc marqueur. Et je pense que là,
ouais, t'as toujours fredonné un petit peu. Comme
exactement.
Ça.
Okay. Et je pense vraiment, du coup, il y a cette petite rêve-là de ce côté. Et pour Jules, moi, je suis grave d'accord. Pour moi, c'est vraiment un entre-deux, entre nos deux univers. Ouais. Et ça m'a même étonnée quand j'ai pu voir des gens ou entendre des gens me dire « Ah ouais, t'as emmené Jules dans ton univers. » Et moi, j'étais choquée parce que pour moi, c'était un vrai entre-deux. Et même, c'est ce que je voulais. Parce que. Alors honnêtement, je voulais rentrer dans l'univers de Jules.
Okay.
Je me suis dit, bon, c'est pas le plus intéressant musicalement à faire. Je pense que c'est un truc super intéressant à faire plus en entre-deux. Et honnêtement, je kiffe l'entre-deux. Et j'ai même adoré l'exercice parce que je pense que j'aurais pas instinctivement posé sur cette prod alors que j'écoute beaucoup de Jules. J'aurais pas cherché à faire un entre-deux entre mon univers et l'univers d'un artiste que j'aime. Et... là, du coup, je l'ai fait. Et c'est pour ça aussi que j'adore l'exercice du featuring. Parce que parfois, c'est... Je sais pas, je trouve ça trop bien, en vrai.
Parce que t'en as fait beaucoup cette année. Déjà sur ta réédition, Mega BBL, mais même globalement, t'as accepté de collaboration. J'ai l'impression que t'aimes... Même si t'es une artiste solo, je sais pas si t'as commencé en groupe ou pas, je sais pas du tout, mais en tout cas, sentiment quoi que t'aimes bien ça. T'aimes bien te frotter à d'autres artistes, en fait.
Alors, franchement, j'adore collaborer avec d'autres artistes parce que pour moi, la musique, c'est vraiment un partage. Et si je pouvais, je pense que je ferais... 10 fois plus de feats, sincèrement.
Moi, tu sais que je pose que des mauvaises questions de journaliste. Est-ce qu'un jour, tu pourrais faire un album commun?
Oui.
Avec qui?
comme ça, je pourrais pas dire parce que je pense que l'album commun, il y a plusieurs notions bien très sûr, importantes pour qu'il marche. C'est qu'aussi, il faut que ce soit deux artistes qui ont vraiment un univers à part entière, ils ont des compos avec qui ils travaillent. Ouais. Pour qu'on puisse vraiment mélanger quelque chose, il faut qu'il y ait des identités assez marquées. Il faudrait que je m'entende bien avec aussi, parce que Moi, je trouve le studio, c'est un moment fun. La musique, c'est un moment de partage. Mais il faut que ce soit fait dans la bonne humeur. Donc, je pourrais faire... Je pense que je pourrais faire avec beaucoup de gens, tant qu'ils sont cool.
Ouais,
honnêtement.
T'as ça en toi, en fait.
Ouais, j'adore faire de la musique avec les gens. J'adore faire des featuring. Là, je sais que je peux pas encore en faire trop parce que sinon, les gens, ils vont me saouler. Mais... Je les comprends. Je n'en veux pas. Mais j'espère qu'un jour...
Est-ce que c'est dur de dire non?
Ouais, c'est grave dur de dire non parce que je pense que sincèrement, si j'avais le temps et si c'était possible, j'irais à chaque session et je ferais chaque fois le son. Et s'il est nul, bah tant pis.
Oui, sauf que ça, c'est dur de dire à quelqu'un le morceau il est nul, on le sort pas, j'imagine, quand on t'invite.
Je trouvais ça dur avant, je trouve ça moins dur maintenant. Okay. En fait, je trouve ça moins dur parce que moi je pars du principe qu'on crée une relation, le feat on le sort pas, mais qu'on va refaire une session, qu'on va refaire un feat. Et du coup, de mon point de vue, c'est moins dur, mais parfois j'ai le sentiment que comme le featuring il est pas vu de la même manière par la personne en face, il y a pas cette notion là de c'est moins dur, parce que pour eux c'est juste que ah bah finalement il y aura jamais de feat entre nous. Alors que pour moi si, c'est une raison de plus qu'on fasse un feat. On a fait un morceau nul, ok, it's ok, on va passer à l'autre, et maintenant on sait pourquoi l'autre était nul, on se connaît un peu mieux, on est plus à l'aise au studio.
C'est ok d'échouer, de faire des accidents, et puis la prochaine fois sera plus intéressante ou pas, mais en tout cas, on teste des choses, quoi.
Exactement. Donc, j'adorerais faire encore plein de feats, mais bon.
Ok. Théodora est avec nous jusque 23h. Alors Théodora, j'aimerais aussi qu'on parle de quelque chose, c'est ton rapport à la scène, puisque tu as aussi une victoire de la musique pour ça. Et tu as fait une prestation, victoire de la musique, qui a été remarquée. On sait que c'est quelque chose que tu aimes bien, je crois. Il y a 4 Zéniths de Paris qui arrivent prochainement. C'était n'importe quoi, la manière dont ça s'est rempli aussi. C'est quoi ton rapport à la scène? Est-ce que tu as tout de suite été étudié, qu'au début tu n'avais pas forcément beaucoup de confiance en toi? Est-ce que c'était pareil sur scène? C'est quelque chose que tu as travaillé avec le temps? Ou au contraire, c'est peut-être là où tu t'exprimes le mieux?
Je pense que j'avais plus confiance en moi sur scène que dans la vraie vie, parce que je dissocie le fait d'avoir confiance en mon travail et le fait d'avoir confiance en moi, et que je suis très ok avec le fait de pas avoir confiance en moi. Du coup, ça fait qu'il y a des moments, ça crée une petite dichotomie où je suis sur scène, je suis grave ok, je suis grave à l'aise, mais j'ai pas pour autant super confiance en moi.
Ça veut dire que dans la vie, t'es moins une boss lady?
Non, je pense que je suis plus encore une boss lady dans la vraie vie.
D'accord.
Parce que je pense que c'est deux fois plus dur de faire des choses quand tu les sens pas. Enfin, tu sais, je trouve que c'est plus dur de faire des choses quand t'as la boule au ventre. Mmh. Alors que j'ai le sentiment que les choses qu'on me demande de faire en tant qu'artiste, elles me donnent jamais vraiment la boule au ventre.
Okay.
Alors que dans la vraie vie, si, parfois j'ai trop du mal à commander des trucs au restaurant ou à dire que j'aime pas les ongles qu'on m'a fait. Non. Là, par exemple, j'étais à Los Angeles, c'est pas la meuf qui me fait les ongles habituellement. Dolls by Miley, c'est ma meilleure copine.
Ah, t'as vraiment quelqu'un dans chaque ville du monde qui te fait tes ongles, c'est ça? Bah, à Los Angeles.
Je me débrouille pour avoir des contacts. Et comme en France, c'est Miley, c'est Dolls by qui me fait tout le temps mes ongles, là, je suis allée à Los Angeles, j'avais personne. Je l'ai fait dans un salon et je sais pas dire que j'aimais pas.
Ah ouais.
Et du coup, j'ai rien dit. Et c'est des trucs qui m'arriveraient jamais en tant que Théodora, j'ai le sentiment. Pourtant, dans la vie de tous les jours, ça m'arrive. Je sais même plus c'était quoi la question, je parle.
Non, on parlait de Boss Lady, mais de la scène aussi surtout.
Ah oui, c'est vrai.
Et de la scène à la base. Et de ton rapport à la scène, parce que là, en plus, sur, tu vois, 4 Zéniths, ce qui vient de se passer semaine dernière, vendredi, il y a aussi une attente par rapport à ça. Et même plus globalement, je me demande comment toi, tu gères la pression, parce que par rapport à la scène, même par rapport à tout, on peut parler de changement de statut cette année, c'est une réalité pour toi. Donc tu sais, là, il y a un moment, c'est peut-être même encore le cas aujourd'hui, où il y avait 7 ou 8 morceaux à toi dans le top 50. C'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'on attend aussi des choses de toi. Alors peut-être que toi, tu as le droit de t'en moquer de ça et de dire « moi je fais ce que je veux », mais tu imagines que le public, même l'industrie, attend que Théodora fasse des hits, tu sais, et qu'elle ait un succès encore plus grand demain. Ça peut générer de la pression et du stress.
Bah, je pense que si je calculais vraiment ça, j'aurais pas sorti des mythos. Parce que des mythos, même quand il est sorti, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas le choix du single, la cassure avec le reste. Et je pense que c'est ce qui est très important, c'est que pourquoi ma musique reste authentique, c'est que je dois me forcer. Et ce qui est bien, c'est que je suis très bien entourée et les gens me forcent aussi à continuer de m'en foutre en vrai. Mmh. Parce que finalement, c'est ça qui a fait que le profil il soit là, c'est ça qui a fait que le profil il est défendu comme tel. Et ce qui est dommage parfois, c'est que les gens ils ont du mal à comprendre que un single, parfois c'est pas juste, on te donne pas juste une heure. Parfois on te donne la première pièce d'un puzzle et que parfois il faut vraiment le prendre comme tel. Et parfois ça veut pas dire que la suite ça va être ça ou que nanana. C'est juste la première pièce. Tu sais même pas à quoi ressemble le tableau entier. Donc parfois il faut le prendre comme tel. Et pour la scène, bah, en fait je crois que j'aime rêver. Et je crois que sur scène il y a encore beaucoup de choses à inventer. Je trouve que c'est un endroit où finalement...
C'est un terrain que tu as envie d'exploiter.
Ouais, on peut, en fait, on peut encore s'amuser. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été faites. Et je trouve que c'est une très bonne manière de défendre sa musique. Je pense qu'il y a des morceaux. Par exemple, moi, un de mes morceaux préférés que je ne vais jamais arrêter de défendre, c'est Mon Casque.
Exceptionnel.
Et j'adore ce morceau. Et je sais que, par exemple, quand je le fais sur scène, il rattrape toujours un nouveau public parce qu'en fait, il y a des morceaux aussi. Ils sont pas là pour la promo, ils sont pas faits pour ça. En fait, non. Eux, les gens, ils ont besoin de se le prendre sur scène, de t'entendre parler de Ton Casque pendant 3 minutes et en fait, ils ont besoin de comprendre pourquoi tu parles de Ton Casque comme ça et de te voir et de se dire, ah, mais en fait, c'est vraiment important pour elle, son casque.
Ouais. Moi, un de mes morceaux préférés, toi, c'est Un Meilleur Nous.
Ok.
Extraordinaire, ce morceau. Vraiment.
Je pense qu'on va me tuer si je dis ça, mais c'est un des morceaux que j'aime le moins.
C'est vrai? Ah, je voulais qu'on écoute un extrait, du coup, je vais pas te
forcer.
Non,
on peut l'écouter. En fait, je l'aime beaucoup, hein, ça ne serait pas sorti. Mais en fait, c'est pas que j'aime le moins, c'est juste. En fait, il y a des. Parfois, quand je suis dans certaines musicalités, je suis très dure avec moi. Beaucoup plus que quand
je me. Tu aurais pu être meilleur dessus que ce que tu as livré sur ce morceau?
J'ai le sentiment que j'aurais pu faire un meilleur morceau pop, en fait.
Okay.
Et que le morceau, il est vraiment très bien, mais que. Finalement, je sais pas, même quand je l'écoute, je suis contente. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu aurais changé? Et j'arrive pas à me dire.
Bah c'est marrant parce que moi, on va l'écouter juste quelques secondes. Bah parce que moi, c'est là où je me suis dit que Théodora, c'était potentiellement une pop star. C'est, je me dis, ah, elle sait faire ça aussi. Ça, c'est un meilleur. Parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas ce morceau, en fait, qui connaissent les gros morceaux. Et ça, c'est donc présent sur BBL. Court extrait, mais j'adore ce morceau.
Moi aussi, tu sais que je l'aime bien. En fait, le seul truc, c'est que je pense, juste ça va passer avec l'âge et avec la maturité. Je pense que je suis beaucoup plus dure avec moi-même quand je fais certaines musicalités.
Ok.
Comme quand je te dis tout à l'heure que je suis plus dure quand je chante pas. Je pense que c'est pareil. Quand je suis sur la pop, je suis beaucoup plus dure avec moi que quand je vais faire des morceaux comme Masuku Namabele, par exemple.
Ok.
Qui est un de mes préférés.
Okay. Bon, je pense qu'on écoute un morceau. Un des morceaux préférés de ma fille. C'est Fashion Designer.
Ah, elle a
un. Après, c'est un des morceaux préférés de tout le monde. Elle a pas que des bons goûts, je te dis la vérité. Je vais pas citer de nom. Elle a 4 ans et demi. Mais là, elle a beau goût en tout cas. Et on va s'écouter donc Fashion Designer, qui est peut-être finalement un des morceaux de l'année dernière. Au final, même s'il est sorti en 2024, c'est un des morceaux, je pense, qui a aussi le plus tourné en 2025 au final.
À mon plus grand bonheur.
À ton plus grand bonheur. Théodora, Fashion Designer.
Fashion.
C'était donc Fashion Designer de Théodora, notre invitée ce soir.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Théodora, il y a quelque chose aussi dont j'aimerais parler, c'est que, question un peu bateau, mais est-ce que tu te considères comme une artiste engagée? Parce que moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui défend, parfois dans ta musique, mais aussi même parfois dans tes prises de parole, des vraies prises de position, tu vois, que c'est des choses que tu as l'air de revendiquer. Même quand on commence à te découvrir, tu fais des interviews sur certains médias qui affirment un certain positionnement. J'ai l'impression que c'est aussi important pour toi, ça, même si tu veux parler à tout le monde, comme tu le disais au début de la discussion, que tu es aussi quelqu'un avec des convictions fortes et que tu les portes, celles-ci.
Bah, en vérité, je veux parler à tous les gens qui sont dans les mêmes convictions, ouais, globalement. En vrai. Donc, en fait, je pense être... un minimum engagé. Je pense que je pourrais l'être plus. Je pense que y a beaucoup de choses que je peux critiquer sur moi en tant qu'artiste, sur comment je suis engagée en tant qu'artiste, en tant qu'individu.
Je pense que tu pourrais ou tu devrais faire plus.
En fait, je pense que c'est des devrais, je ne saurais pas, parce que ouais, je pense que c'est vraiment des questions que je continue à me poser. Je ne sais pas encore, je ne suis pas arrivée il y a si longtemps que ça.
Bien sûr.
Mais je pense qu'il y a des choix que j'ai pu faire où je me dis, ah ouais, bon, j'aurais pu faire autrement, en vérité. Ou même, parfois, je regrette d'avoir dit des trucs dans des sons. Je sais que c'est un truc con, mais je me dis, putain, pourquoi j'ai dit ça dans ce son, en vrai. En fait, je sais que moi, je l'ai dit parce qu'il y a toute une pensée derrière, mais en fait, je l'ai juste craché comme ça, sans rien. Okay. Et finalement, quand la meuf qui a 15 ans, elle m'écoute, et elle écoute juste ça, est-ce qu'elle comprend ce que moi je voulais dire derrière? Est-ce qu'elle est en tête? Elle n'est pas dans ma tête. Est-ce qu'ensuite moi je fais l'effort d'en parler là ou là, à tel endroit? Non plus. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui sont critiquables. Mmh. Mais je pense que je vais apprendre à gérer ça avec le temps. Parce que je pense qu'aussi il faut garder cette ligne entre c'est bien de faire ça, mais il ne faut pas que ça m'atteigne à ce point-là en fait. Faut pas que je me lève le matin pendant un mois en me disant « Ah ouais, mais là, c'est chaud quand même, je reçois autant de messages que ça. » Et donc, je pense que c'est une question un peu, globalement, où même moi, je sais pas trop quoi dire. Mmh. Parce que c'est des questions, je me pose la même question que toi, en vrai. Je pense être un minimum engagé, je pense que je pourrais faire mieux. Est-ce que je devrais faire autrement? Peut-être. Peut-être qu'il y a des meilleures manières de faire, mais que je ne sais pas encore. Mmh. Je pense que parfois aussi, les gens, ils oublient un peu que...
T'es jeune.
Bah, au-delà même que je suis jeune, t'apprends, c'est que ouais, t'apprends à naviguer seul, en fait.
Exactement.
C'est que t'as personne... Et ça, c'est vraiment un truc qui me saoule. Je me dis, mais tu poses la question à personne, en fait. Genre, tu poses la question à personne.
Ouais.
T'es là, tu fais un peu ta vie, après, il t'arrive un truc, tu te dis, mais je suis quoi? Mais il y a des gens à qui ça arrive avant moi. Ok, mais...
Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont conseillé aussi, ou non, tu t'es senti justement vraiment, enfin après c'est normal, hein, tu vis pas avec tous les autres artistes, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont pu te donner des conseils, comme ça, te dire attention là, ou là c'est parfait, enfin...
Ouais, Ludy m'a donné un très bon conseil, mais après donc, je devais aller au carnaval à Rio, parce que ça faisait un an, non, à ce moment-là, je sais pas, ça faisait combien de temps qu'on travaillait, mais on sortait de Congolie, ça faisait vraiment tête dans le tunnel, où tous les matins tu te lèves à 6h, etc.,
ouais,
et tu rentres super tard, parce que t'es dans un flux d'opportunités qu'il faut pas louper en
ouais,
vrai.
Ouais.
Je pense que c'est ce qui a fait que je sois là aujourd'hui, c'est que j'ai pas loupé ce moment-là où fallait se lever tous les ouais, jours, fallait pas avoir de week-end, etc. Et je dis pas, hein, ce sera jamais aussi dur qu'un chantier ou quoi que ce soit.
Bien sûr, mais en tout cas, il y a un moment où oui.
Mais
bien
à
sûr,
un moment-là, à ce moment-là, j'ai vraiment la tête dans le guidon et je me dis, ah ouais, mais je vais partir en tournée, faut que j'aille en vacances avant d'y aller. Et je devais aller au carnaval.
À Rio, donc.
Ouais. Et là, il y a Ludy qui me dit, fais pas ça. Tu te rends pas compte parce que tu l'as pas encore fait, mais la tournée, elle va te fatiguer au point où tu vas regretter de pas avoir pris un temps de repos avant d'y aller. Et il m'a dit, je me suis dit, eh ben, écoute, je vais le faire confiance parce que je pense qu'il l'a depuis longtemps,
là,
il
ouais,
est passé par là. Et puis c'était vraiment dans une conversation remplie de bienveillance, etc. Donc je me suis dit, ouais, il a peut-être raison. Et bah, il avait vraiment raison à 100%. Heureusement que je ne suis pas allée parce que ça a été très fatigant et que j'ai bien fait de prendre ces deux semaines-là pour me reposer. Mais parfois, ouais, c'est vrai qu'il n'y a personne pour te donner le bon conseil. Et c'est un peu dur parce que du coup, ce que tu fais, ça a quand même de l'impact, en fait.
Mmh.
Donc moi, j'aimerais bien faire comme si je m'en fous, mais je ne m'en fous pas. Genre vraiment, parfois il y a des matins, je me lève, je me dis, mais j'aimerais tellement m'en foutre. Genre, franchement, il y a des moments, je me dis, mais j'aimerais bien m'en foutre de ça, ça, ça. Mais en fait, j'arrive pas à m'en foutre. Du coup, faut essayer de réfléchir comment faire, comment naviguer, trouver les bons entre deux. Je pense que ça va le faire avec le temps. Je suis pas super optimiste dans la vie en général, mais je pense qu'il y a des trucs sur lesquels je suis optimiste, et ça, je me dis, avec le temps, tu vas prendre tes marques, ça va le faire.
Bon, Théodora, c'est déjà l'heure de se quitter.
Waouh.
Ouais, ouais, c'était court, mais c'était cool. J'ai une question quand même. Enfin, est-ce que 2026 va être aussi chargé pour toi que 2025?
Ouais, en vrai.
Ouais, okay. Trop bien, ça me va.
C'est moi, pas slide.
Ça va trop bien. Bon, merci beaucoup en tout cas. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir. Merci de nous avoir accueillis dans ton... Chez toi,
mm-hmm.
C'est chez toi ici en vrai.
Comme
c'est
pas
une des résidences de la Boss Lady, ça.
Ouais, bah, en ce moment, je me trimballe de d'endroit
c'est
en endroit.
T'as pas d'appart?
Non, j'ai pas d'appart.
Ok, tu vis d'hôtel en hôtel, comme Omar Sharif disait ça avant.
Je vis d'endroit en endroit, ouais. Franchement, ouais. Et je me sens du coup qu'en fait, c'était le cas de beaucoup de gens en début de carrière, en fait.
Ok.
Je savais pas. Et Oli m'a appris ça récemment. Il m'a dit, ah mais moi, j'ai vécu en hôtel pendant 2 ans. Et je dis, bah, j'espère quand même pas ça va être mon cas, mais bah, force à toi.
Bon, très bien. Je te souhaite, si c'est le cas en tout cas, d'avoir un appartement en 2026.
Merci.
Nous, on attend évidemment la suite. Merci beaucoup en tout cas, vraiment, et merci à toi et à toute ton équipe. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui a été préparée par Alexia Lacour et Redouane Théla, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était May Fuangtron. À la prise de son, Colin Colotonio et Ralph Lancou, pardon, à la prise de vue et lumière. Merci aussi au Lavage Noir, en fait, c'est pas vraiment chez toi, c'est la Vache Noire aussi, et aux équipes web et vidéo. Et demain, nous serons même heure avec le rappeur Ness. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci à toi.